L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.
Bonjour Thierry Cozic.
Bonjour.
Vous êtes sénateur socialiste de la Sarthe, vice-président de la Commission des Finances. Vous êtes également membre du Conseil fédéral. Et aujourd'hui sur notre antenne, nous allons revenir un peu sur cette campagne des législatives, sur la campagne du Parti Socialiste. Les scrutins ont lieu les 30 juin et 7 juillet. Un scrutin et une dissolution surprise annoncée par le président de la République le 9 juin après les élections européennes. Les enjeux sont multiples pour cette élection. Alors que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, le Rassemblement National pourrait obtenir une majorité pour la première fois de son histoire. Qu'en est-il du nouveau Front Populaire à gauche qui pourrait aussi obtenir un groupe plus solide, solide à l'Assemblée? Donc on en parle justement avec vous, Thierry Cozic, de cette nouvelle alliance à gauche. Déjà, pour les gens qui nous écoutent, comment se passe la campagne et y a-t-il, en tant que sénateur, des inquiétudes et des thématiques principales que vous observez chez les électeurs sur le terrain?
Bien, déjà, en tant que sénateur, vous dire quand même la surprise, et je crois qu'aujourd'hui, c'est quand même... La stupéfaction chez nos concitoyens. Clairement, cette dissolution n'était pas attendue, les partis politiques n'étaient pas prêts, et je crois qu'il y a seul le président est responsable aujourd'hui de cette situation. Donc on est toujours dans un moment de flou où chacun s'interroge. Simplement, on le voit, cette campagne va très vite, puisque 15 jours pour concocter des programmes, faire campagne, c'est extrêmement court, et je pense que la nation et la République dans son ensemble auraient mérité mieux. Prendre le temps aussi de la réflexion. Je crois que les moments d'élection sont aussi des moments de respiration démocratique, je pense, et qu'on aurait mérité de pouvoir aller au fond des choses.
Comme ce que disent certains de vos collègues, est-ce que c'est une situation ubuesque? Est-ce que le président de la République a joué avec la Constitution? Ou est-ce que c'était une chose importante à faire au vu de la composition actuelle de l'Assemblée?
Non, mais clairement, aujourd'hui, le président de la République, pour moi, l'expression va être triviale, mais je me fais penser à un enfant gâté qui, dans un moment de colère, prend une décision irrationnelle. Quoi qu'il en dise, aujourd'hui, la situation que nous connaissons avec une probabilité malheureusement extrêmement forte de voir l'extrême droite arriver au pouvoir est la résultante d'une décision personnelle prise par le président de la République. Et je crois que c'est ça aujourd'hui quand même la difficulté, c'est qu'on a quelqu'un à la tête de l'État qui aujourd'hui ne mesure pas... l'état dans lequel il a mis le pays après sept ans de pouvoir, d'exercice du pouvoir. Il se présentait en 2017 comme l'homme qui ferait que les Français n'aient plus le besoin d'aller voter extrême droite. 7 ans après, on voit que c'est complètement l'inverse qui s'est passé.
Comment expliquer, selon vous, que l'extrême droite était explosée durant ces 7 ans de mandat? Est-ce que, selon vous, le président a joué en allant, et sa majorité a joué en allant sur le terrain et les thématiques du Rassemblement National? Ou est-ce qu'il y a d'autres phénomènes à expliquer par ça?
Clairement. Je peux en parler en tant que parlementaire. Quand je vois le mépris qu'il y a à l'égard des partis politiques traditionnels, à l'égard des élus, aujourd'hui on a Renaissance qui avant était En Marche est un mouvement qui s'est créé comme ça à la va-vite en 2017 pour donner une majorité au président de la République. Et ce qu'on voit surtout, c'est des gens qui sont déconnectés du terrain, qui ne connaissent pas la vie des Français. C'est pas à Paris, la vie française, ce n'est pas Paris, c'est aussi ce qui se passe dans les territoires. Et malheureusement aujourd'hui on a des élus de la majorité présidentielle qui ne connaissent pas la vie de nos concitoyens. Et donc il y a ce mouvement aujourd'hui de désertification, on le voit dans la Sarthe, que ce soit la désertification médicale, que ce soit les services publics, l'absence de services publics, ce sentiment de déclassement. Et je crois que le premier mouvement qui est à l'origine aussi de la montée de l'extrême droite, enfin du vote contestataire vers l'extrême droite, c'est quand même les Gilets jaunes, où à un moment, il y a le pouvoir politique en place et déconnecté de ce qui se passe sur le terrain.
Alors parlons un peu du programme, Thierry Cozic. Pour le programme du nouveau Front Populaire, on parle de 150 milliards de dépenses d'ici 2027, avec des innovations, un ISF climatique qui rapporterait 15 milliards d'euros à l'État. Parmi les priorités, l'annulation de la réforme de l'assurance chômage, l'abrogation de la réforme des retraites pour la ramener à 62 ans. C'est un programme que vos opposants jugent utopique, beaucoup trop coûteux pour certains. Thierry Cozic, en tant que vice-président de la Commission des Finances du Sénat, quel regard portez-vous sur ce programme du nouveau Front Populaire?
J'ai un regard... très, très, très positif sur ce programme. Et pour rien vous cacher, avant cette dissolution, j'avais mis en place un groupe de travail au sein du groupe socialiste du Sénat pour travailler sur un projet, un contre-projet au projet gouvernemental. Et il y a un certain nombre de propositions qui ont été faites par le groupe socialiste du Sénat et qui ont été intégrées dans le budget. Aujourd'hui, c'est ce que je note quand même, c'est qu'on discute beaucoup autour de ce programme. Enfin, j'ai quand même noté que c'était l'une des seules coalitions qui aujourd'hui a proposé un programme chiffré. Certes, il y a des dépenses, mais il y a aussi des recettes. Et je crois que c'est là aussi où aujourd'hui on a une vraie différence avec Emmanuel Macron. C'est que notre vision de la société, c'est aussi de faire participer l'ensemble des Français à la cohésion nationale. Et notamment, chacun participe en fonction de ses moyens. Donc ça veut dire que face à ces dépenses nouvelles, et je crois qu'il y a des choses qui sont fortes, notamment en matière de pouvoir d'achat, en matière de logement, sur lequel le nouveau Front populaire s'est engagé, il y a aussi des recettes. Il y a des recettes et je crois que c'est
d'où elles proviennent ces recettes selon vous, d'où elles doivent provenir.
Elles viennent simplement, le choix qui a été fait aujourd'hui chez Emmanuel Macron, c'est un choix politique que nous assumons aujourd'hui, c'est-à-dire que chez Emmanuel Macron, c'est la politique de l'offre qu'on défend. À gauche, nous défendons une politique de la demande, c'est-à-dire qu'en gros, à un moment, on doit contribuer. Alors, les entreprises doivent contribuer, notamment je pense au super profit. On sait qu'il y a des entreprises françaises qui ont profité de la crise sanitaire pour générer des bénéfices extrêmement importants. Et donc, elles aussi, elles doivent participer à l'effort national. Et je crois que c'est aussi ça, cet équilibre. C'est, il y a des dépenses nouvelles, mais elles sont financées.
La retraite à 62 ans, pour progressivement l'amener à 60 ans dans les années à venir, c'est possible selon vous ?
C'est possible. Alors après, c'est aussi fonction, je crois que c'est Éric Coquerel, qui est le président de la commission des finances de l'Assemblée, qui est France Insoumise, qui disait de manière très juste, c'est aussi fonction des conditions macroéconomiques de l'économie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est aussi dans un moment politique dans lequel on réaffirme aussi une volonté, une vision politique de la société. Et après, on a aussi, une fois en responsabilité, on regarde aussi en fonction des conditions économiques, la mise en œuvre. Elle ne se fera pas. Il y a un choc qui doit se faire à l'arrivée en responsabilité. Et dans le temps, après, on tendra vers ces objectifs.
Le SMIC a au moins 1600 euros, le Rassemblement National, la droite, même le MEDEF crient à l'impossible. Est-ce que selon vous c'est possible ou ce sont des dépenses périlleuses ?
Oui, mais sauf que, dépenses périlleuses, je ne sais pas si c'est périlleux. Simplement, on est aussi dans un moment, plutôt que d'un moment budgétaire, de chiffrage, je crois qu'on est aussi, je le redis, on est dans un moment politique dans lequel il faut aussi un moment donner de l'ambition et de la vision pour nos concitoyens, et notamment les plus modestes. Et il est vrai qu'aujourd'hui, on voit, le niveau du SMIC ne permet pas de vivre décemment. Et donc, je crois qu'il est aussi important qu'à un moment, la puissance publique, donc l'État, donne des signes importants. Moi, je crois beaucoup, c'est aussi l'un des chantiers sur lequel il faudra demain réinvestir le champ syndical, notamment tous les corps intermédiaires. Le choix a été fait par Emmanuel Macron de complètement les mettre sur le côté, et ben je crois que c'est ça aussi. Je crois beaucoup à la négociation salariale. Et donc l'idée de tendre vers 1600 euros me paraît extrêmement intéressante, pouvoir redonner du pouvoir d'achat pour nos concitoyens. Économiquement, si on a la capacité aussi à mener cette discussion avec les organisations syndicales, avec les organisations patronales, je pense qu'on doit pouvoir y arriver.
Justement, quelles doivent être les autres mesures principales de lutte contre la précarité en faveur du pouvoir d'achat pour les Français, selon vous ?
Clairement, il y a également toute la pouvoir accompagner les produits de première nécessité. Je crois qu'il est important aussi que chacun puisse vivre décemment, puisse se nourrir, puisse se loger. Et on sait qu'aujourd'hui, la difficulté, elle est grande en matière de logement, notamment de logement de qualité. Parce que moins on a de moyens, plus le logement, il souvent est de mauvaise qualité. Donc ça veut dire que derrière, c'est toute l'ambition écologique, de transition écologique, sur lequel il faut aussi que l'État s'engage. Le rapport Mahfouz-Pisani fait état aujourd'hui d'un besoin de dépenses de 38 milliards d'euros, quand dans le même temps, le gouvernement en place en propose 7. Donc on voit qu'il y a quand même des choses importantes à faire. Donc c'est en matière de logement, vivre décemment. C'est pas parce qu'on a moins de moyens qu'on doit vivre plus mal. Et je crois que c'est ça la philosophie aujourd'hui du nouveau Front populaire.
Parlons un petit peu du climat et d'écologie maintenant. Quelles sont les priorités dans le programme du nouveau Front populaire qu'on doit défendre ? On a parlé de l'ISF climatique il y a quelques instants pour avoir des recettes.
Oui, alors il y a l'ISF climatique qui est proposé par le Parti socialiste depuis très très longtemps. Et d'ailleurs, en tant que sénateur socialiste, membre de la Commission des finances, à plusieurs reprises, j'ai porté un amendement au projet de loi de finances pour la création de cet ISF climatique. Je le disais à l'instant, on sait qu'aujourd'hui les besoins sont énormes en matière de transition écologique. Il est aussi important. Et on voit quand même qu'à la fois le Rassemblement national, mais aussi Renaissance aujourd'hui, on fait une croix sur la transition écologique. On fait une croix et je crois que c'est une erreur. Quelle planète on laissera demain à nos enfants, c'est aussi un choix politique que nous assumons. Et donc l'idée, c'est aussi de dégager à un moment des ressources pour pouvoir aller financer cette transition.
Voilà, on a parlé un peu du programme, de certains des principaux axes, puisqu'on est rattrapé par le temps passe vite. Plus globalement, sur cette alliance, quel est votre regard, Thierry Cozic, sur ce nouveau Front populaire qui réunit plusieurs formes de gauche, comme la NUPES l'a été il y a 2 ans?
Alors j'ai un regard bienveillant, après c'est pas un accord, je le dis très clairement, à titre, et ça n'engage que moi, aujourd'hui j'ai profonde divergence avec LFI. Voilà, je suis quelqu'un qui s'engage sur la social-démocratie, et notamment derrière Raphaël Glucksmann, qui a fait un très bon score aux élections européennes. Néanmoins, face à la soudaineté de la dissolution, je crois qu'il était important aussi que la gauche ait la capacité de se rassembler. Et de se rassembler, il y a aujourd'hui, on regarde, d'ailleurs c'est assez étrange, parce que dans le climat et notamment dans les médias, on tape beaucoup plus sur la gauche que sur l'extrême droite. Moi, il y a quand même quelque chose qui me choque. C'est clairement, là, aujourd'hui, le danger, c'est pas l'extrême gauche.
Dire que LFI est extrémiste au même plan que le Rassemblement National, est-ce que ça vous choque ?
Alors oui, ils ont des positions que je ne défends pas. Je pense notamment le comportement qu'ils peuvent avoir à l'Assemblée nationale, moi, me choque. Je le dis très clairement. On sait pertinemment que... Il y a une frange des LFI qui, aujourd'hui, est plutôt dans la bordélisation, si vous me permettez l'expression. J'ai le sentiment que Jean-Luc Mélenchon n'est plus dans la course, donc il faut arrêter de se mettre la pression en se disant Jean-Luc Mélenchon, demain c'est lui le Premier ministre. Non, c'est clairement, ce ne sera pas le cas si on a une majorité au soir du second tour. Et donc c'est aussi, il y a un besoin de rassemblement de la gauche aussi pour faire front à
l'extrême droite. Est-ce que le ni LFI ni RN est juste selon vous ?
Clairement,
c'est une caricature.
C'est une caricature. Clairement, le danger pour la démocratie, c'est le Rassemblement national. Je le dis, la gauche aura toujours la capacité à se rassembler pour faire front au Rassemblement national, à l'extrême droite. Et je crois que ça, c'est aussi une force à gauche, c'est qu'on a cette capacité, malgré nos différences, on a cette capacité à se rassembler.
Alors Raphaël Glucksmann a réalisé un bon score aux européennes, mais n'est-ce pas différent d'une élection nationale ? On l'a répété d'ailleurs pendant toute la campagne, que les élections européennes sont les élections européennes, puisque lorsque l'on observe l'électorat français lors des élections nationales, c'est la France insoumise qui arrive assez largement en tête. Est-ce qu'il y a aussi un clivage au sein des électeurs de gauche aujourd'hui difficile à associer, selon
vous ? Non, mais je crois aussi, vous savez, c'est aussi la forme de la, c'est le fonctionnement de la Ve République qui aujourd'hui, avec le quinquennat notamment, qui de mon point de vue est une vraie difficulté.
Le septennat était mieux ?
Oui, le septennat permettait au moins au président de la République de se positionner au-dessus des partis, au-dessus du gouvernement, et d'avoir un regard neutre, bienveillant, dans l'intérêt de la nation. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, le président de la République est un super Premier ministre. Et donc, c'est ce qui explique en fait qu'aujourd'hui, sur la gauche, LFI est leader, parce que sur la dernière campagne présidentielle, Jean-Luc Mélenchon a fait un score important qui s'est traduit en nombre de circonscriptions plus importantes à gauche. Voilà, c'était avec le lead. Simplement, quand même, certes, l'élection européenne n'est pas une élection nationale, mais je pense néanmoins qu'elle l'a été. Elle l'a été parce qu'on voit quand même qu'il y a une partie de l'électorat qui était plutôt socialiste il y a une dizaine d'années, qui se portait sur Emmanuel Macron, est revenu, s'est tourné vers Raphaël Glucksmann. Donc je crois qu'il y a aussi, ça. Je crois vraiment que la social-démocratie telle qu'elle existe, telle qu'elle elle se structure, a vocation à reprendre le lead sur la gauche dans les années à venir. Après, là, on est dans une situation d'urgence dans laquelle il faut aussi l'avouer. Aujourd'hui, c'est le premier groupe parlementaire à l'Assemblée nationale et la France insoumise. Donc, ils ont des sortants. C'était aussi logique qu'ils cherchent à peser dans la coalition.
Thierry Cozic, vous qui siégez au Sénat, une institution symbole de sérénité, de stabilité pour beaucoup, quel est votre regard sur l'Assemblée nationale aujourd'hui, qui a longtemps aussi été symbole en Europe de stabilité, l'Assemblée nationale française? Quel est votre regard et avez-vous des inquiétudes sur le prochain paysage politique, déjà parce que peut-être dominé par l'extrême droite, mais aussi surtout complètement morcelé et divisé en plusieurs blocs irréconciliables?
En fait, le bilan, souvent j'essaye de me projeter, de me dire qu'est-ce qu'on retiendra, qu'est-ce qu'on retiendra d'Emmanuel Macron. Malheureusement, je crains qu'on ne retienne pas grand-chose, si ce n'est qu'il a morcelé, comme vous dites, la société française. L'Assemblée, telle qu'elle semble se dessiner au regard des sondages, même s'il faut toujours être très prudent sur ceci, semble donner l'impression d'une Assemblée ingouvernable, avec trois blocs qui ne peuvent pas travailler ensemble. Donc ça veut dire qu'il y a quand même un vrai danger en termes de gestion des affaires courantes de la vie française. Après, je pense que le Sénat a aussi une place particulière à prendre. Le Sénat a aussi cette capacité à travailler au-delà de l'esprit partisan, et je crois que c'est une vraie force. Et on voit quand même qu'il a retrouvé ses lettres de noblesse, notamment après la crise des Gilets jaunes. On voit qu'aujourd'hui, c'est une force à la fois d'opposition, mais aussi une force constructive sur laquelle on peut s'appuyer. Je crois que demain, notamment au regard de ce qui est annoncé, le Sénat pourra prendre pleinement sa place dans la République.
Merci Thierry Cozic d'avoir répondu à notre invitation.
Merci à vous.
Sénateur socialiste de la Sarthe et vice-président de la Commission des Finances.
L'invité de la rédaction avec Robin Hulin.